Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations ne la lusi tout kabambi. La crise dans l'est de la RDC nécessite une solution politique et non militaire, selon le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Johan Borstam est à la fin de sa mission dans la région et il a rencontré à Kigali le président rwandais Paul Kagame avant de rencontrer à Kinshasa le président Félix Tshisekedi. L'Organisation mondiale de la santé OMS a facilité le transport de plus de 500 poches de sang et plusieurs intrants vitaux à Goma et à Bukavu. C'est pour couvrir les besoins urgents de la population en cette période de guerre. Cette aide vitale venue de Kinshasa a été collectée par le ministère de la Santé. L'invité de ce journal s'appelle Mac Azukai. Le colonel est porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu. Il va aborder les problèmes de discipline au sein de l'armée. Il va aussi souligner l'importance des audiences foraines tenues récemment en Nord Kivu, ainsi que leur visée. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. La crise dans l'est de la RDC nécessite une solution politique et non militaire. Déclaration ce mercredi à Kinshasa de Johan Borstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, qui vient de terminer une tournée dans la région. Au cours de sa mission, il a rencontré à Kigali le président rwandais Paul Kagame avant de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il dit avoir exhorté les deux chefs d'État à se concentrer sur le bien-être de leur peuple en privilégiant le dialogue pour résoudre le différend qui oppose les deux nations. Il a rappelé l'opposition de l'Union européenne au soutien militaire du Rwanda au M23. Johan Borstam est au micro de Ronelly Ntibonera.
Le Rwanda et la République démocratique de Congo sont condamnés dans un sens à travailler pour établir un terrain d'entente. C'est une responsabilité des deux gouvernements envers les deux peuples, le peuple congolais et le peuple rwandais. Je dirais que par rapport aux processus régionaux en cours, comme vous savez, peut-être l'Union européenne soutient fortement les processus régionaux. Donc nous, on prend toujours ce qu'on appelle des solutions africaines pour les problèmes africains. J'aimerais quand même ajouter l'importance pour les organisations régionales d'éviter confusion par rapport à l'encadrement de ces négociations.
Près de 80 000 personnes, hommes, femmes et enfants de la RDC, ont fui vers les pays voisins à la suite de la guerre d'agression, dont environ 61 000 sont arrivés depuis janvier dernier au Burundi. C'est le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, qui l'a dit hier lors d'un briefing à la presse à New York aux États-Unis d'Amérique. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Selon Stéphane Dujarric, autour de Goma, environ 17 000 personnes restent dans des sites de déplacement, des écoles, des églises, tandis que 440 000 autres se déplacent depuis 4 semaines en vue de retourner dans leur village d'origine. Il a cependant précisé que le retour de ces personnes a été obligé par les rebelles du M23 qui contrôlent désormais cette contrée. Au moins 209 personnes déplacées sont arrivées spontanément dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, où les services de base ne sont pas équipés pour faire face à cet afflux soudain des populations, a fait remarquer Stéphane Dujarric. Compte tenu de l'insécurité généralisée dans les nord et sud Kivu, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies a rappelé que de nombreuses autres personnes pourraient devoir franchir les frontières pour trouver protection et assistance. Pour sa part, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle les États à enregistrer tous les demandeurs d'asile en provenance de la RDC et à leur fournir des documents.
Ici à Kinshasa, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a reçu ce mercredi les membres du corps diplomatique accrédité en RDC lors d'un briefing approfondi sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon le compte X de ce ministère, au cours de cet échange, plusieurs points clés ont été abordés, notamment la mise en œuvre de la résolution 2773 et son impact sur la stabilisation de la région, la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi, les sanctions imposées par certains pays contre le Rwanda, les avancées diplomatiques en cours et les perspectives pour les prochaines échéances internationales. La ministre d'État a exprimé sa gratitude envers le corps diplomatique pour leur soutien indéfectible à la RDC en ce temps de crise, soulignant l'importance de la coopération internationale pour parvenir à une résolution durable des conflits. Toujours en ce qui concerne la recherche de la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs africains, notez que la délégation des religieux protestants et catholiques congolais a été reçue hier par le président ougandais Yoweri Museveni. C'était dans le but d'échanger autour de la paix dans la région dans le cadre de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. L'Église du Christ au Congo a, dans un message sur X, expliqué qu'après des échanges très profonds et éclairés, le président ougandais a bien accueilli cette initiative et a marqué son accord pour un dialogue franc autour de la paix dans la région des Grands Lacs. Ici à Kinshasa, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a procédé depuis la semaine dernière à des auditions des membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. 5 membres du gouvernement ont été déjà entendus. Il s'agit notamment des vice-premiers ministres et ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, ainsi que des ministres des Finances et du Budget. Au cours de l'audition d'hier mardi, Jacquemain Chabani, de l'Intérieur et Sécurité, a rencontré toutes les préoccupations des députés, souligne le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Rubens Mikindo est au micro de Michel Kifindangoy.
C'était une occasion pour nous de poser des questions aux différents ministres. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout lors des derniers affrontements au niveau de Goma? Goma est passé sous le contrôle du Rwanda aujourd'hui. Nous avons aussi la chute de la grande ville de Bukavu. Et tout ça, on voulait comprendre. Et aussi, si nous avons invité la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est pour comprendre un peu comment les choses évoluent, bien qu'aujourd'hui, tout le monde estime qu'il faut jeter des fleurs au ministre des Affaires étrangères. Le ministre du Budget, ministre des Finances aussi, c'était pour comprendre la chaîne de dépenses. C'était vraiment l'occasion pour poser des questions et puis c'était le tour des ministres de commencer à répondre aux questions des députés. Aujourd'hui aussi, le tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Maintenant, il reste les deux ministres, le ministre du Budget et le ministre des Finances qui vont finalement répondre aux questions des députés. Je crois que dans les 48 ou 72 heures, ça sera chose faite. Et au finish, ces rapports, nous allons les présenter à notre bureau. On va étoffer aussi des recommandations de notre commission. Ça sera à notre bureau, au niveau de l'Assemblée, de pouvoir décider sur la suite.
Au moins 9 morts, tous des miliciens et plusieurs autres blessés dans des violents combats qui ont éclaté dans la nuit de lundi à hier mardi dans la ville de Butembo, au nord Kivu. Il s'agit des affrontements entre deux fractions rivales d'un même groupe de Wazalendo pour le contrôle de la région au niveau du mont Tabora dans la commune de Kimemi. Ce mercredi matin, un calme précaire a régné sur place, selon la société civile locale. André Kitenge.
Les combats entre deux factions des mêmes groupes armés de Wazalendo ont duré environ 2 heures sur le mont Tabora de la commune de Kimemi, en pleine ville de Butembo. Des affrontements à l'arme légère et lourde ont provoqué une panique dans la ville et le déplacement de certains habitants vers des endroits jugés plus sécurisés. Selon des sources locales et sécuritaires, le bilan de ces affrontements fait état de 9 miliciens tués. La vraie version de ces affrontements à répétition dans la région entre ces Wazalendo n'est toujours pas encore connue. Les mêmes sources renseignent que ces miliciens se disputent souvent le contrôle des barrières sur le tronçon routier entre Vutatimbwa et Malende. Les mêmes sources ajoutent qu'un autre point de friction entre ces miliciens est aussi la dispute autour de l'appartenance de la colline de Mavina à un chef de la milice contesté. Contacté, le colonel Makazukai, le porte-parole des opérations Sokola Ingrat Nord, appelle ses combattants à rejoindre leurs compagnons sur les différentes lignes de front contre les rebelles du M23 et des ADF. Selon lui, ceux qui ne vont pas obtempérer seront traqués au même titre que les ADF et M23.
Au moins 500 poches de sang et plusieurs intrants vitaux pour couvrir les besoins urgents de la population ont été reçus hier par les responsables sanitaires à Goma au nord Kivu. C'est l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a facilité le transport de cette aide vitale collectée à Kinshasa par le ministère de la Santé. Thiemo Bald, responsable de l'OMS en charge de la gestion de cette crise, a reçu cette cargaison à la grande barrière entre Goma et Gisenyi. Il l'a à son tour remise à la coordonnatrice provinciale du centre de transfusion sanguine au Nord Kivu. Pour Merveille Roubakaré, l'arrivée de ces poches de sang est un soulagement. Elles serviront dans les hôpitaux de Goma et de Bukavu. Suivons tour à tour les impressions de ces deux responsables dans cet extrait choisi par Sifamagourou.
L'utilité du sang, c'est pour subvenir aux besoins de malades nécessiteux qui ont besoin du sang au niveau des structures hospitalières. Ça sera utile au niveau de Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu.
Les efforts qui ont été faits depuis maintenant 3 semaines par l'Organisation mondiale de la santé pour les transporter par plusieurs endroits, ils arrivent ici aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous et nous espérons qu'ils seront utilisés de façon efficace, de façon efficiente pour continuer à sauver la vie.
Notez que l'OMS à Goma a reçu la semaine dernière 14 tonnes de médicaments pour répondre aux besoins sanitaires des personnes vulnérables. Dans le centre du pays, au Kassai oriental, plus de 200 ménages, dont 100 ménages des retournés de l'Angola, ainsi que des déplacés internes installés au site de convergence de Bena-Kasampuila, dans le territoire de Tshilenge, accèdent désormais à l'eau potable. Le gouverneur de province a inauguré hier un forage de puits d'eau creusé par l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, avec le financement du HCR au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Esther Ndalafina.
C'est un ouf de soulagement pour les femmes ménagères qui se rendent à plus de 5 km chaque jour pour puiser l'eau brute dans un ruisseau. Marthe Ilunga, retournée de l'Angola, affirme que ce forage est une solution au problème de violence basée sur le genre dans cette localité.
Aujourd'hui, on sommes très heureuses. On n'a plus peur des viols, des violences. On est très contente de cette eau qu'on nous a donnée.
Ingénieur Aden Moussavoulé de ADES explique ici le fonctionnement de ce forage.
Ce forage a un puits profond de 120 mètres. Il nous dessert de l'eau à un débit de 3 mètres cubes l'heure qui alimente un stockage de 10 mètres cubes. Et c'est là qu'il dessert sur 4 robinets de 2 bornes fontaines.
Ce forage a été construit avec le financement de UNHCR. Son chef de bureau dans le Grand Kassai, Dr Jean-Jacques Ngondo, affirme que ce geste va au-delà du mandat de HCR.
Nous avons aussi, après évaluation des besoins, trouvé que la question de l'eau, qui normalement ne devrait pas être dans le cadre du rapatriement parce que la question de l'accès à l'eau est une question vraiment vitale.
Signalons que les retournés de l'Angola et les déplacés internes de Kamwina-Sapou installés à Kasampuila ont aussi bénéficié des abris construits sous la supervision des ADSS partenaires du HCR. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
L'Organisation internationale pour les migrations OIM, au chevet de la police nationale congolaise à Kalemi. Cette organisation a remis officiellement à la police des infrastructures modernes, notamment un commissariat de référence, 4 sous-commissariats, quelques Jeep Land Cruiser, des motos et des matériels de bureau. C'était hier à l'occasion de la clôture de la formation sur la police de proximité. Depuis Kalemi, Paulin Munanga.
Ces projets visent l'amélioration des conditions de travail de la police, la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive après le départ de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Ils sont financés conjointement par le gouvernement du Japon à travers l'Agence de coopération internationale et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Concernant les 4 sous-commissariats de la police, ils ont été construits dans la ville de Kalemi, dans les territoires de Kalemi, Nyunzu et Kongolo. Dans le cadre de la professionnalisation de la police de proximité, 120 élèves viennent d'achever une formation de 6 mois. Ils ont suivi des cours sur des matières liées aux droits humains visant à rendre la police nationale plus professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Pour rappel, cette promotion de la police de proximité est la toute première dans la province du Tanganyika. La société civile et les membres du comité local de sécurité plaident pour la continuité de la formation de la police afin d'améliorer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Tanganyika.
En plus bref, la cité de Kasongolunda dans la province du Kwango est fortement menacée par des érosions. Elles ont déjà détruit plusieurs maisons des particuliers. Selon l'administrateur de ce territoire qui lance l'alerte, plus de 10 grandes têtes d'érosion sont signalées. Situation qui a laissé plusieurs familles sans abri, affirme Arsène Koukangidila. Il en appelle ainsi à l'implication des gouvernements tant provincial que national pour que les travaux de lutte anti-érosive afin de sauver la cité de Kasongolunda.
Actualité internationale.
Les avocats camerounais ont lancé ce mercredi 3 jours de suspension du port de la robe en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. La protestation a été impulsée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui a dénoncé dans un communiqué les violences physiques, barbaries et autres traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre. Ce mercredi, plusieurs tribunaux de Yaoundé sont restés déserts.
L'invité.
Le colonel Mark Azoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, Kivu, est notre invité. Il aborde les problèmes de discipline au sein de l'armée et souligne l'importance des audiences foraines tenues récemment à Moussienene, dans la région de Butembo et à Lubero, au Nord Kivu. Selon lui, ces audiences devraient servir d'exemple à certains militaires qui, au lieu de défendre la patrie, sèment la terreur parmi la population. Le colonel Azoukai assure que même ceux qui ont fui au-delà de la province du Nord Kivu seront chercher pour répondre de leurs actes. On l'écoute dans cet entretien avec Guylaine Kassassien.
Colonel Mark Azoukai, bonjour.
Bonjour.
Les comportements de certains soldats des FARDC inquiètent malgré la tenue des audiences pour juger ceux qui ont commis des viols, violences et pillages. La situation ne change pas dans plusieurs cités de Lubero comme Luotu, Masereka et ailleurs. Comment expliquez-vous cette indiscipline de certains éléments qui, au lieu de sécuriser les populations, sèment terreur et désolation?
Madame, je ne saurais vous expliquer le comportement ou le manque d'éducation dont certains militaires ont fait montre durant ce temps. Il est vrai que ces jeunes gens ont fait la honte de l'armée. Ils ont enlevé l'essentiel de la profession, l'âme de l'armée. Ils ont violé le règlement qui régisse l'armée. L'armée, c'est la discipline. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, je ne sais pas comment on peut parler d'une armée. Heureusement que ce sont des brebis galeuses. Nous saisissons l'occasion pour présenter nos excuses aux victimes et à la population tout entière qui a été traumatisée par le comportement de certains militaires que nous avons déférés devant la justice. Ces audiences ne sont qu'au début parce qu'ils sont nombreux. Hier, c'était une soixantaine à être jugés. 55 condamnés à mort, mais ils sont encore nombreux à vagabonder, si vous me permettez de dire ça, dans la ville, dans certaines localités. J'ai ouï dire qu'il y a un an qui ont déjà atteint Kisangani. Mais la machine judiciaire est déjà activée pour traquer tous ces gens-là. Et ils vont répondre de leurs actes.
Comme vous parlez des audiences, visiblement, ces dernières sont censées servir d'exemple à la troupe, semblent ne pas suffire, ni avoir d'effet dissuasif sur certains militaires. L'armée et les militaires seraient-ils devenus incontrôlables, car ces actes d'indiscipline et de violence sont enregistrés dans de nombreuses localités du Grand Nord Kivu?
Moi, je pense que on ne doit pas généraliser ce qui vient de se passer. Vous dites que les audiences ne vont pas résoudre les problèmes, mais c'est un processus. On vient de prononcer les sentences. Voyons comment on va exécuter ça. Et la suite, ça va venir. Mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'au moins, ces brebis galeuses seront mises à côté.
Et alors, dans le même cadre avec ce type de comportement de certains de vos soldats, ne craignez-vous pas que la population perde confiance à son armée, alors que vous ne cessez de demander à cette même population de faire confiance au FARDC, de collaborer avec elle pour lutter contre les groupes armés locaux et étrangers?
C'est vrai que nous-mêmes ne sommes pas contents de ce qui vient de se produire, mais cela ne peut pas nous décourager. Il y a encore des militaires éduqués, instruits, qui tiennent le front. C'est vrai que le mariage est affecté. Nous allons faire un effort pour essayer de coller les morceaux. Le patriotisme, c'est aussi ça. Je terminerai par vous dire, madame, que faut envoyer des enfants bien éduqués dans l'armée. L'armée n'est pas une poubelle. Moi, je pense qu'un enfant qui est bien éduqué chez lui ne peut pas venir commencer à casser des portes et prendre des lapins déjà, voler les poules des gens. Ils mangeaient, ils ont à manger, ils ont des médicaments, nous ne savons pas pourquoi ils ont posé ces actes-là. Si ce n'est pas un problème d'éducation de base.
Colonel Makazukai, dans une ville comme Beni, de plus en plus de faits militaires sont découverts par les habitants. Les armes circulent librement. Certains militaires qui ont fui les lignes de France et retournent contre la population dans d'autres localités. Que fait l'armée pour récupérer ces soldats fuyards et empêcher les violences contre la population?
Je crois qu'il y a une commission qui est mise en place pour traquer tous les fuyards. J'invite la population à coopérer avec la police militaire et les instances judiciaires de l'armée. Pour les gens qui sont en train d'abandonner les tenues, les armes à gauche et à droite, et que la population nous aide à les amener auprès des autorités militaires pour qu'on puisse les remettre à l'armée.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.